au service de la charité. Sur Radio Espérance, des témoins nous parlent de la foi en actes. Bonjour, aujourd'hui dans notre studio ici à Radio Espérance, nous accueillons les pèlerins de l'eau vive, ou plus exactement Jeannine, Marie-Paul, Pascal et Sylvie. Ils vont nous présenter en quelques mots ce que sont les pèlerins de l'eau vive, mais aussi et surtout comment les actes de charité tissent cette communion qui existe entre eux, comment la foi porte leurs engagements.
Bonjour Jeannine, je suis responsable du groupe que nous avons créé. On a commencé de créer le groupe en juin 2007 à notre domicile, en compagnie des pèlerins de l'eau vive de Lyon et du diacre de la paroisse, Francis et Martine Duhamel, qui nous ont accompagnés pendant un certain temps. On a accueilli l'évêque, Monseigneur Dominique Debrun, en avril 2008 et nous avons eu notre local à l'oratoire de La Terrasse en juillet 2008 et nous sommes toujours présents tous les mercredis de 19h30 à 20h30 pour prier, intercéder pour tous les malades qui nous sont confiés, tous ceux qui nous rencontrons. La mission comporte 45 groupes, peut-être même plus à l'heure d'aujourd'hui, 45 groupes qui se retrouvent à Lourdes pour leur pèlerinage international. Et chaque région de France organise un pèlerinage une fois dans l'année. Nous avons aussi des groupes en Suisse, en Pologne, à La Réunion, Burkina Faso et d'autres. Et des futurs groupes qui sont en train de naître, Vienne, Grenoble.
Dans notre mission des pèlerins de l'eau vive, il y a eu plusieurs moments et dans plusieurs groupes, en fait, un appel pour l'alcool et les jeûnes. Très souvent, on est interpellé par ce phénomène de société. Donc, on connaît depuis quelques années déjà, mais là, ça prend vraiment de l'ampleur. Très souvent, on n'a pas affaire qu'à l'alcool parce que ces jeunes-là sont et avec l'alcool et avec la cigarette et avec la drogue et avec notre mission est pour combattre l'alcoolisme et on se rend de plus en plus compte qu'il y a d'autres besoins, d'autres addictions et cette maladie de l'âme. Elle est vraiment contre plusieurs addictions.
Moi, c'est Pascal. Je suis abstinent d'alcool depuis 4 ans, en ayant rencontré les pèlerins de l'eau vive, Jeannine et Alain, son mari. Grâce à ce groupe de prière, quotidiennement, je prie le Seigneur pour être abstinent d'alcool au quotidien, parce que le combat est un combat journalier, d'heure après heure au début. Après, c'est plus les heures, c'est les jours, mais c'est un combat quotidien. Donc, il faut être fidèle au Seigneur et à la prière qu'on a promis de lui faire tous les matins.
Pascal souligne cet ancrage spirituel du mouvement des pèlerins de l'eau vive. Vous avez le sentiment que ce mouvement est vraiment né d'abord dans l'Église, au niveau spirituel. Comment c'est né, les pèlerins de l'eau vive? Alors, vous avez parlé un petit peu du mouvement sur Saint-Étienne, qui existe donc depuis 4 ans, mais les pèlerins de l'eau vive, c'est plus ancien que ça?
Ils ont été créés par un médecin alcoolique en 1979 à Lourdes avec la pancarte.
On trouve quoi sur cette pancarte?
Alors cette pancarte, elle a une histoire, cette pancarte, parce qu'elles étaient trois personnes du renouveau charismatique à Lourdes et elles sont rentrées à leur hôtel et quand elles sont rentrées à leur hôtel, elles ont été apostrophées par l'hôtelière qui était très alcoolisée, qui leur a dit de foutre le camp, de dégarpir et d'aller prier avec tous ceux qui étaient à la procession. Et elle a pris un couvercle de boîte à chaussures et elle a écrit dessus « Jésus Sauveur, guéris-nous de l'alcool, merci ». Et elle a accroché un marche à balai avec un lacet. Elle est partie à la procession. Donc elles ont été félicitées par l'évêque pour leur foi et leur courage en portant cette pancarte.
Ce cri a été approuvé
Ce cri a été approuvé, oui. Et notre mission a été approuvée par l'évêque de Nantes. Parce que cette Marion Caour était médecin alcoolologue et elle avait perdu son papa à l'âge de 14 ans de l'alcool aussi et elle connaissait bien le problème. Et
il faut une grande dose d'humilité peut-être aussi pour porter cette pancarte. Alors tout le monde n'est pas appelé à la porter forcément. Dans un premier temps, c'est assez libre. Je pense que tout le monde ne s'impose pas forcément la pancarte tout de suite.
Dans un premier temps, cette pancarte, on a peut-être un peu honte de la porter parce que on dit que quand on porte cette pancarte, on porte un malade. Quand on est encore un peu dans le déni ou qu'on s'alcoolise encore, on se porte en fait. Avec cette pancarte, on se porte soi-même. Et c'est vraiment dur de se l'avouer et c'est ça le plus difficile au début. Et après, quand on est en vérité avec soi ou avec ses proches, cette pancarte est beaucoup plus facile à porter parce qu'elle nous a aidés et on est prêt à aider quelqu'un justement pour sortir de l'alcool.
Alors j'ai le sentiment, de façon un petit peu extérieure, qu'elle a vraiment une force qu'on ne soupçonnerait pas. Ce cri, cette présence du cri, en rouge en plus, que l'on voit, qui se distingue dans une foule.
Oui, oui, c'est sûr qu'elle est, elle a une force et elle a une importance quand on fait un rassemblement, principalement à Lourdes, où vraiment on se, c'est le pèlerinage de l'année où on se retrouve tous ensemble. Quand on la porte tous ensemble, cette pancarte, elle a vraiment une force, oui.
Et chacun peut porter pour soi, mais aussi, comme vous le soulignez tout à l'heure, pour quelqu'un de sa famille, pour un ami, pour un proche, sans être forcément concerné.
Oui, oui.
Mais en faisant cet acte d'humilité, au fond, de prendre sur sa personne ce cri.
Oui, donc Pascal vous a expliqué par rapport à quelqu'un qui est malade et qui porte la pancarte. Et pour ma part, moi qui suis malade de la maladie de mon mari, donc je m'appelle dans le groupe des pèlerins de l'eau vive une codépendante en fait, puisque je suis autant malade que lui. Et quand je porte cette pancarte-là, je dis « je », mais on pourrait dire « nous portons » parce que tous les témoignages vont dans ce sens. Quelqu'un qui n'est pas alcoolique, parce qu'il a la chance de pas avoir de problème avec l'alcool, eh bien, quand il porte la pancarte, c'est par amour pour quelqu'un. Donc, au départ, on la porte dans le sens « pèlerinage de l'eau vive ». C'est une pancarte qui est double. D'un côté, il y a « pèlerinage de l'eau vive ». Et de l'autre côté, il y a « Jésus Sauveur, guéris-nous de l'alcool, merci ». Et on en rit tous parce qu'au départ, on la tient du côté « pèlerinage de l'eau vive ». Parce qu'on se dit « non, c'est pas moi qui suis alcoolique, donc bon, je veux bien la porter pour quelqu'un de malade ». Et même moi, je vais plus loin, c'est pas seulement une personne malade, on la porte aussi pour plusieurs personnes qu'on porte dans notre cœur et en prière. Voilà, et petit à petit, plus on avance dans les pèlerinages, dans les enseignements que l'on entend au groupe des pèlerins de l'eau vive, ou ailleurs, où on se ressource également, et ben on tourne la pancarte de l'autre côté et on la montre fièrement. Parce que c'est vrai que quand on défile à Lourdes et qu'on passe devant tous les cafés et qu'on a tous les regards des gens, et bien le regard des autres, c'est parfois pas facile à vivre. Et puis bon, après, quand on a une petite voix, par exemple, qui nous dit « le regard des autres, c'est pas important, c'est le regard de Dieu », donc là, ça change tout et on porte la pancarte avec fierté du côté qui interpelle, quoi, « Jésus Sauveur, guéris-nous de l'alcool, merci ».
Est-ce que vous avez le sentiment, alors à travers l'entraide, l'écoute, le soutien, tout ce que vous manifestez entre vous, que cet acte d'humilité, au fond, il est aussi le signe d'autres actes d'humilité, c'est-à-dire une façon d'opérer entre vous, où on retrouve cette humilité, cet abandon.
Oui, par exemple, quand de nouvelles personnes arrivent dans le groupe des pèlerins de l'eau vive, tout le monde est étonné parce que on ne sait pas qui est malade, qui est codépendant, qui n'est pas malade. Et très souvent, ça porte à quelques petites blagues parce que on dit oh ben moi, j'aurais pensé que c'était votre mari qui était malade ou j'aurais pensé que c'était votre femme. Et voilà, donc on respecte s'il y a de la confidentialité. Et ensuite, ben quand on dévoile qui a des problèmes parce que chacun est en vérité en fait. Eh bien, oui, il y a une grande humilité chez les pèlerins de l'eau vive, mais ça, c'est au prix de certaines étapes hein, dans la foi. Et puis, c'est surtout l'ambiance du groupe et puis la communion quoi, entre frères et sœurs. L'amour qui est dispensé dans les rencontres, on rend grâce au Seigneur parce que c'est lui qui nous permet d'avoir trouvé cette bouée. Très souvent, on parle de bouée, de rencontrer les pèlerins de l'eau vive. Ça a été notre cas en 2006, de pouvoir rencontrer Alain et Janine. Je me souviens du premier appel téléphonique où des amis nous avaient donné le numéro de téléphone. Et quand j'ai appelé Janine, qu'on s'est fixé rendez-vous, en raccrochant le téléphone, j'ai crié de joie. J'ai dit « Alléluia !» Je sentais déjà qu'on était sur la bonne voie et que c'était parti. Donc bon, et après quand Pascal a décidé de téléphoner lui également pour dire bon ben oui on se rencontre, bon ben voilà, c'est gagné.
Mais c'est toujours une grande joie d'accueillir une personne, une famille surtout.
Donc il y a ces temps de prière et vous l'affirmez vraiment comme un enracinement spirituel. Je dirais ce qui est affiché des pèlerins de l'eau vive, c'est ce temps de prière qui permet de vous identifier, donc, si j'ai bien compris, sur la vie diocésaine, ici pour Saint-Étienne à la paroisse de la Terrasse. Il y a des coups de fil, il y a des petits soutiens, il y a des petits clins d'œil aux uns aux autres. Comment ça se passe dans le concret? On est attentif à celui qui vient d'arriver peut-être.
Oui,
on essaie de trouver une petite vitesse de croisière aussi avec celui qu'on connaît. Et puis on a peut-être besoin soi-même d'être soutenu de temps en temps et être interpellé.
C'est sûr que dès qu'on a rencontré quelqu'un, on a envie de l'accompagner parce qu'on prie toutes les semaines et toutes les semaines, c'est loin, une semaine. Donc, quand ils arrivent, on essaie de leur expliquer ce qu'on fait dans les pèlerins de l'eau vive, dans la mission des pèlerins de l'eau vive. C'est déjà la prière du soir qui est, on remplit son verre d'eau, la prière de la Samaritaine, on remplit son verre d'eau et on récite le Notre Père et le lendemain, on récite la prière du verre d'eau. En buvant le verre d'eau, en le buvant. Et on le fait pour tout le monde, pour ceux que l'on connaît, mais aussi bien pour quelqu'un dans le monde qui souffre du problème de la dépendance.
On élargit vraiment la prière au-delà même du mouvement et de ses membres au plan local.
Voilà, donc toutes les personnes qui sont dans la dépendance, on a une pensée pour eux, même ceux qu'on ne connaît pas.
Comment vous répartissez un petit peu quand vous sentez que quelqu'un de nouveau a besoin justement de gestes plus concrets, peut-être de contacts plus réguliers? Comment vous arrivez à gérer ça?
Eh bien, en ce moment, par exemple, on a la chance de rencontrer Marie-Paul, donc qui est avec nous et qui est une maman et qui nous appelle au secours pour sa fille depuis 6 mois au moins. Et sa fille actuellement est en demande pour s'en sortir, donc elle a accepté de nous recevoir. Donc il y a 3 semaines, Janine et Pascal ont fait une première visite, puisqu'elle est au CHU en psychiatrie, en train de se sortir et de son alcoolisme et d'une maladie grave en plus. Donc là, il y a urgence. On essaye d'aller deux par deux, hein, en visite déjà. Voilà, comme Jésus et les disciples le faisaient. Et puis ensuite, 15 jours après, donc Pascal et moi, ils sommes retournés. Et donc, on essaye d'être à l'écoute de ce que la personne veut nous dire, premièrement. Comme jeudi dernier, par exemple, Sandrine a commencé en nous demandant quel conseil on allait lui donner. Je l'ai arrêté tout de suite. Je dis non. Ah, on n'est pas là pour donner des conseils parce que, après tout, nous on est encore dans la maladie. Même s'il y a 4 ans d'abstinence, c'est pas gagné. On est délivré pour l'instant de l'alcool, mais c'est au quotidien que le combat se vit et donc on peut pas se permettre de se mettre au-dessus de la personne qu'on visite. Donc elle a compris tout de suite que c'était donnant-donnant et qu'on était là par fraternité, qu'on l'écoutait du mieux qu'on pouvait et qu'elle nous écoutait également. Voilà, bon, on avait prié avant d'entrer dans la chambre et l'Esprit-Saint était réellement là, le courant est vite passé. Voilà, et puis on s'aperçoit l'une et l'un et l'autre en face que les problèmes, même s'ils sont différents dans chaque famille, eh bien, quelque part ils se ressemblent tous. Il y a un problème à la base qui fait qu'on devient alcoolique ou pas. Et puis eh bien, au fil des discussions, la fraternité, la solidarité, l'humanité, enfin tout se met en route grâce à l'Esprit-Saint. D'un mot à un autre mot, eh ben le dialogue se met en route et puis chacun livre ce qu'il a vécu, ce qu'il est en train de vivre. Et voilà, et à la fin on dit, on conseille effectivement, on peut se donner l'une et l'autre, ceci, cela, mais ce n'est pas gagné, donc il va falloir continuer de se voir pour œuvrer toujours vers l'avant et d'arrêter de parler du passé, quoi, en fait. Le passé a bien été vécu, je veux dire. Le présent, il est bien là. Et maintenant, pour l'avenir, c'est à chacun de se prendre en main pour avancer. Voilà, donc on se donne rendez-vous quelques temps plus tard. Et pour le cas de cette nouvelle amie, eh bien, on ne va pas la lâcher parce que elle doit bientôt sortir. Et c'est à la sortie que là, il y a le besoin de plus d'aide. Donc oui, il y a l'aide avant de connaître la personne par une autre personne intermédiaire qui nous demande la prière. Ensuite, il y a l'aide, la rencontre. Et puis après, c'est pas fini, quoi. Il faut toujours être là. Voilà, il faut toujours être attentif, mais il faut que la personne soit d'accord. Et puis aller à petits pas, et surtout avec le Seigneur, pour ne pas brusquer les choses et faire sa volonté. Voilà, sauf que le problème, on ne sait pas trop où il nous guide. Alors bon, donc on prie toujours pour que ce soit sa volonté et pas plutôt nos impressions, quoi. Voilà. C'est pourquoi on dit non, ce ne sont pas nos conseils, on va marcher ensemble, quoi. On va faire un bout de chemin ensemble.
Il y a plus souvent quelqu'un en intermédiaire qu'une personne elle-même touchée par le problème qui va décrocher le téléphone.
Ah, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Ça dépend des cas, hein. Ça dépend des familles, ça dépend. Ouais.
Et je me disais, au-delà des difficultés certainement de remise en question, d'éventuelles rechutes, etc., est-ce qu'il y a des remises en question du contact établi lui-même ? C'est-à-dire, est-ce que de temps en temps, des personnes, tout d'un coup, peuvent rejeter telle ou telle forme d'aide que vous leur proposez, que ce soit au niveau spirituel ou simplement humain, le petit contact, le petit téléphone décroché une fois en passant, en disant, tiens, comment tu vas ? Je prends des nouvelles ou...
C'est pas facile à gérer, mais on essaye de toujours dire la vérité. Et pour avancer, il faut la vérité. C'est le chemin qui conduit à la guérison. Et quelquefois, la vérité, c'est pas bien perçu, ou la personne n'est pas encore prête à l'entendre. Et on blesse. On peut blesser.
En 4 ans et demi de prière chaque mercredi soir, on a reçu plusieurs personnes qui ont fait le pas de venir à l'oratoire Bienheureux Antoine Chevrier, dialoguer. Et puis, on en a perdu, entre guillemets, quelques-uns, justement, parce que plus on avançait dans la prière et plus on leur faisait comprendre qu'ils devaient être en vérité, soit par rapport à l'alcool, soit par rapport à d'autres soucis de santé. Et voilà, et une fois ou deux, effectivement, dans un groupe de prière, ça a été peut-être trop dur à entendre. Même si on est persuadé que les personnes qui ont eu ces paroles étaient habitées par ces paroles, mais on a des personnes qui n'ont pas pu revenir parce qu'elles n'étaient pas prêtes à entendre certaines choses. Et bon, ben, on respecte, on continue de prier pour eux pour qu'ils puissent progresser là où ils en sont. Et puis on continue d'accueillir ceux qui viennent, mais à chaque fois, c'est toute une histoire qui arrive. Après, on remet ça au Seigneur et c'est lui qui continue d'œuvrer. De toute façon, tous les mercredis soirs, on en est à entre 150 à 200 prénoms dans notre corbeille sur l'autel. Et tous les mercredis soirs, chaque prénom est remis au Seigneur pour qu'il continue de s'occuper de chacun. Pour nous, c'est le plus important. Mais il n'empêche qu'on s'est demandé si on ne devait pas œuvrer autrement, justement pour ces personnes qui, au niveau de la foi, ont encore quelques étapes à franchir, et que c'est peut-être trop dur pour elles d'entendre certaines choses parfois. Donc on a essayé de réfléchir à une autre façon de rejoindre les personnes. Mais là, on n'a pas de signe du Seigneur encore pour un autre local, peut-être moins confessionnel. On attend. On a eu quelques périodes là où on a eu moins de personnes qui venaient à la prière, mais notre mission est de prier pour celles qui nous ont été remises, donc c'est déjà beaucoup. Et puis après, c'est l'œuvre du Seigneur. Hein, donc, on reste d'humbles serviteurs, on fait ce qu'on peut.
Des paroles qui remettent un petit peu dans l'étrier de la foi, où ces paroles-là peuvent blesser plus que des paroles humaines qui voudraient, par exemple, se faire un petit peu rappel d'engagement tout simple. Enfin, je pense que vous avez aussi entre vous quelques petits codes de rappel, ne serait-ce qu'au plan humain. Vous parliez du verre d'eau tout à l'heure, qui dépasse le symbole de la foi, qui a probablement été choisi comme un acte humain fort. C'est confus peut-être ?
Oui, c'est très confus. Et puis je pense qu'il y a cette part du mystère de la foi et du mystère... du mystère de Dieu, voilà, on est de simples malades de l'alcool ou codépendants et on essaye de vivre au mieux cette mission, mais on a sûrement nos limites, nous aussi.
Et vous avez l'exemple de gens qui, ne partageant pas de façon claire la foi, ont tenu à rester proches de votre réseau parce que sur le plan réel de la dépendance, ça les aidait, ça les portait.
Il y a plein d'associations qui existent pour se sortir de l'alcool. Nous, c'est une mission catholique, donc on agit par la prière, et il y a des personnes qui viennent au groupe de prière dans les chœurs, dans les différentes villes de France, qui vont avoir besoin des pèlerins de l'eau vive pour se sortir de l'alcool, mais qui après vont s'éloigner de la foi, quoi. et qui resteront abstinents d'alcool. Donc on a un petit peu fait notre boulot, entre guillemets, mais les personnes ne vont pas forcément, avoir une démarche de foi plus importante et puis ou avoir une conversion, pas forcément, quoi.
Mais vous, auprès de ces personnes, ça vous obligera quand même à avoir, vous, la foi pour elles, peut-être, dans toute la démarche que vous avez investie, je suppose.
Oui, bien sûr. Donc, quelque part, c'est peut-être un petit peu frustrant et dommage que ces personnes-là restent pas dans le groupe. Mais bon, c'est vrai que un travail a été fait, pas tous les travaux, mais...
L'essentiel, c'est qu'elles s'en sortent, en fait. Voilà. Même si elles ont pas, elles vont pas au pèlerin de l'eau vive, le but, c'est qu'elles guérissent et qu'elles retrouvent la guérison, même si c'est... On doit les conduire, même si c'est vers les alcooliques anonymes.
Bien sûr.
On doit les aider aussi de ce côté-là. C'est sûr que c'est la partie spirituelle, mais pour qu'ils puissent avoir le spirituel, il faut que dans leur corps, ils soient aussi un peu en forme, parce que sinon, ça ne sert à rien.
Je pense que vous semez, Jeannine, Pascal, Sylvie, et ensuite, eh bien, la personne fait son cheminement. Le Seigneur, il nous aide et il développe. La petite graine, elle pousse ou elle tombe sur un sol rocailleux ou quoi que ce soit, mais il faut faire confiance au Seigneur.
C'est un peu là l'abandon, dans tout acte de foi, je crois, qu'on retrouve. C'est pas toujours facile.
Ah oui, non, mais c'est dans l'abandon.
Et entre vous, vous arrivez à vous soutenir lorsque, par exemple, vous portez quelqu'un? Est-ce que, lorsque c'est lourd, vous arrivez à décrocher le téléphone aussi ou à vous porter les uns les autres, parfois dans des moments de crise plus fortes que d'autres?
Moi, ça, je peux vous dire que ça a été vraiment une bouée de rencontrer Jeannine, Sylvie et Pascal, parce que franchement, je ne savais plus où me tourner. Et j'ai découvert ce mouvement-là à l'église, justement, de la terrasse. On m'a dit, quand on m'a vu que j'étais pas bien, on m'a dit, mais vous devriez aller voir l'eau vive. Bon, je me suis penchée, j'ai téléphoné, et Jeannine m'a accueillie d'une façon magnifique. Et c'est là que j'ai repris vie. J'ai repris vie et j'ai dit, bon, ben là, au moins, je sens que je suis épaulée, parce qu'ils ont rencontré des difficultés aussi. Et comme ils ont rencontré des difficultés, ils sont à même de pouvoir m'expliquer, parce que je comprenais pas pourquoi que ma fille ne pouvait pas s'arrêter. Et ce sont eux qui m'ont dit, mais de toute façon, tant qu'elle ne décide pas, elle ne s'arrêtera pas. Et ça, franchement, je ne l'avais pas compris. Donc, je les remercie parce que grâce à ça, je peux faire le cheminement et essayer de l'expliquer autour de moi pour leur dire, mais non, c'est pas une question de volonté au départ, c'est une question que la personne est vraiment malade, c'est une maladie, et c'est une chose qu'on nous explique pas suffisamment. Et grâce à Jeannine, à Pascal, Sylvie, Alain, qui était là aussi, qui m'a fait comprendre, qu'on pouvait s'en sortir avec la prière, en fin de compte, et ça, j'en suis vraiment convaincue.
Et vous sentez donc que dans tous les actes que vous posez, vous êtes d'autant écouté que vous avez été tous concernés à un niveau ou à un autre par la difficulté?
Oui, ça, franchement, ça porte. Quand on n'est pas bien, on peut téléphoner et on est écouté, mais patiemment, encouragé, c'est quelque chose qui est... Merci Seigneur.
Il y a parfois des moments de découragement dans le groupe aussi, face à telle ou telle personne qu'on pensait sortie. Bon, la rechute peut arriver, mais plutôt dans le sens où on sent que derrière la rechute, il y a une démission plus ancrée, quelque chose de plus difficile à gérer.
Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très compliqué puisque les histoires des uns et des autres ne sont pas simples. Mais en fait, ce que je voulais rajouter, c'est par rapport à, dans le noyau de l'équipe des pèlerins de l'eau vive de Saint-Étienne, du cœur de Saint-Étienne, on a notre Dominique aussi qui n'a pas pu venir ce soir et qui elle aussi aurait un beau témoignage par rapport à donc son mari qui a connu les pèlerins de l'eau vive ces deux dernières années avant de partir au ciel. Et elle témoigne du bonheur d'avoir rencontré les pèlerins de l'eau vive pour qu'ils puissent partir en paix. C'est-à-dire que toute sa vie, il a souffert de cette maladie. Dominique, sa femme, en a beaucoup souffert. Leurs deux enfants ont vécu comme ils ont pu eux aussi. Et au décès de notre ami Gérard, le 10 avril 2010, nous avons été là pour accompagner, pour chanter et préparer la messe des funérailles. Et Gérard n'avait pas pu trouver avant les pèlerins de l'eau vive quelque chose qui lui permette de se sortir de l'alcool. Il avait pourtant été très bien accueilli à Vie Libre, où d'autres personnes ont connu les alcooliques anonymes. Voilà, mais pour chaque histoire familiale, il y a une solution quelque part qui peut passer soit par une association laïque, soit par la mission. la mission catholique des pèlerins de l'eau vive. Donc, c'est vraiment au cas le cas, quoi. Donc, ceux qui passent par ici et s'en sortent, alléluia, merci Seigneur. Et ceux qui font un passage et vont chercher ailleurs, ben, alléluia, merci Seigneur, parce que, bon, on a été à un bout de leur chemin. Voilà, mais c'est cette confiance, cette humilité, cette simplicité de rencontre et cet amour fraternel qui permet de vivre tout ça. Après, nous, on n'a rien à y gagner, entre guillemets, à part notre bonheur d'être là pour quelqu'un d'autre et d'être consolidé dans notre histoire à nous, tout en sachant que bon, la guérison n'est pas acquise, parce que c'est un combat de chaque jour, mais tout au moins d'être libéré de l'alcool, ça c'est un vrai bonheur. Ça change tout dans une famille et voilà, et puis d'aller à la rencontre du Seigneur toujours un peu plus grâce aux rencontres des autres, ça c'est extra.
Pour tous ceux qui sont partis, qui n'ont pas pu rester, on les a toujours dans notre cœur et qu'on sera là, on sera avec eux.
C'est une communion d'âme. Vous en avez un petit peu, presque, on pourrait dire, familièrement bavé ensemble.
D'accord.
Ça resserre les liens.
Pour nous, on est peut-être là aujourd'hui, mais il nous a fallu du temps avant d'arriver au pèlerin de l'eau vive. C'est difficile, la démarche est difficile.
Moi, je voudrais simplement dire que quand on est dans l'alcool, on perd tout, en fait. On perd confiance en soi, on perd ses proches, on perd ses amis, on perd sa famille. Et après, c'est plus jamais comme avant. Même si on est abstinent d'alcool, c'est plus jamais pareil. Et grâce au pèlerin de l'eau vive, on peut retrouver une famille.
Belle parole d'espérance en conclusion de cette émission. Merci, merci Janine, merci Marie-Paul, merci Pascal et merci Sylvie. Les pèlerins de l'eau vive sur Radio Espérance, de très beaux gestes d'entraide. Au service de la charité. C'était sur Radio Espérance, un témoignage de la foi en actes.